Bienvenue dans notre podcast sur l'Expo 58. Dans cet épisode, comme dans les précédents, nous vous ramenons à l'année 1958. Imaginez, nous sommes en 1958, vous êtes une femme expérimentée avec un grand sens des responsabilités, la prestigieuse exposition universelle à Bruxelles est imminente et la Belgique souhaite montrer son meilleur visage. Un appel est lancé à la recherche de 280 jeunes femmes bilingues pour le poste d'hôtesse. Comment gérer une telle équipe lors d'un si grand événement ? Madame Mott l'a vécu en réalité. Elle était à la tête des 280 hôtesses pendant l'Expo 58.
J'ai deux noms. Quand je travaillais à l'Exposition 58, j'étais mariée et je portais le nom de mon mari, c'est-à-dire Monsieur Mott, M-O-T. Mon prénom à moi, c'est Odette. Donc Odette Mott. Et aujourd'hui, j'ai 96 ans et de très bons souvenirs de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'estimais être un grand bonheur.
Les hôtesses étaient, tout comme l'Atomium, une partie de l'histoire de l'Expo 58. 280 jeunes filles souriantes, polyglottes et dévouées qui accueillaient et guidaient les millions de visiteurs. Avec leur veste rouge et leur chapeau bleu, elles étaient le symbole de la femme moderne des années 50 et elles étaient le visage de l'exposition universelle. Une mission importante car la Belgique souhaitait laisser une impression durable auprès des visiteurs belges et étrangers en affichant une image jeune et impeccable. Madame Mott, qui dirigeait les hôtesses, est aujourd'hui une dame vigoureuse de 96 ans, mais elle était à l'époque une jeune femme pétillante de 28 ans.
Eh bien, qui suis-je ? C'est très curieux, mais j'étais mariée, je me suis mariée à 19 ans. Donc j'étais jeune, mariée, et l'exposition, évidemment, j'y pensais pas parce que je n'étais pas spécialement à l'affût d'un job. Certainement pas. Mais j'ai des amis de mes parents d'ailleurs, qui eux connaissaient Jean Destrée, qui lui a été le créateur de ce groupe hôtesse. Et comme il le, ces personnes âgées donc que je connaissais m'ont dit tu as tort parce que tu sais ça serait un entracte d'une année si tu veux, en fait ça en a fait deux et plus le reste, ça a fait 25 ans. Mais le journal Le Pourquoi Pas qui existait à l'époque avait une première page qui s'appelait Un boc avec Jean Destrée. Alors, j'ai pris la première page et je suis allée voir ce monsieur. Et il m'a fait passer un test qui était très naïf aussi parce que personne ne savait où on allait. On ne savait pas du tout quelles étaient les recettes que nous allions créer. Parce que les recettes, il a d'abord fallu les créer. Même monsieur Destrée. Et comment ça s'est-il passé ? Il m'a dit, voilà, une feuille de papier, une carte de Belgique, un téléphone, un crayon et une gomme. Je suis restée pendant 3 jours dans leur bureau en imaginant un service d'accueil. Je ne savais même pas ce que c'était, franchement. Lui non plus. Et nous nous sommes trouvés dans du cas un cas qui était plus ou moins valable. Mais il faut dire que j'étais la seule personne à qui on a posé la question. Donc, je n'avais pas beaucoup de concurrence, comme on dit. Et puis, j'ai quelque chose qui est une faveur pour moi-même, c'est-à-dire que j'avais quand même 28 ans. Donc, j'avais une maturité que les plus jeunes n'avaient pas. Donc c'était déjà un acquis, un plus.
Quelle expérience cela a dû être ! Beaucoup d'entre elles venaient directement de petits villages pour se retrouver dans le Bruxelles effervescent. Les milliers de personnes, les pavillons impressionnants et l'imposant Atomium. Cela a dû être impressionnant. Beaucoup de jeunes filles se sentaient donc appelées et voulaient devenir hôtesses. 3000 se sont inscrites, mais seulement 280 ont été sélectionnées. Les hôtesses jouaient un rôle crucial pendant l'Expo 58 car elles devaient être polyvalentes. Seules les meilleures ont donc été sélectionnées.
Pour réaliser ce groupe hôtesse qui était nécessaire pour accueillir 42 millions de visiteurs venant du monde entier, parce que déjà, il y avait pas mal d'avions, il y avait pas mal de trains, et les hôtels de Bruxelles avaient commencé à peu à peu se construire, rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, bien entendu, je parle des avions qui volent tout le temps, mais c'était déjà 42 millions de visiteurs sur presque 200 jours d'exposition, ça voulait dire pas mal de personnes. Et le résultat, pour les accueillir, puisqu'ils venaient de tout partout, il fallait qu'on puisse leur répondre dans leur langue. Et voilà le pourquoi d'avoir choisi des jeunes femmes belges, en principe belges, sauf exception, celle qui parlait le russe peut-être, celle-là n'était pas tout à fait belge, mais enfin bref, toujours est-il que ça veut dire que la jeune femme belge a été sélectionnée parmi 3000 candidates, et nous en avons sélectionné 280.
Une fois sélectionnée, le véritable travail commençait. Les hôtesses étaient préparées minutieusement par Madame Mott, la légendaire chef de brigade, et son équipe d'enseignants. Une école spécifique fut mise en place, où elles étaient rigoureusement formées et initiées aux subtilités du métier. Le fameux règlement leur était expliqué. Elles recevaient des cours d'hospitalité et d'étiquette et perfectionnaient leurs compétences linguistiques. Mais tout était nouveau, même pour Madame Mott. Aucun guide n'existait sur comment être hôtesse, et le programme entier a dû être élaboré à partir de rien.
Et ces 280 sont allés dans une école spéciale qui a été créée de décembre à avril pour leur rappeler, ou plutôt leur apprendre, parce que peut-être que quelques-unes ne le savaient pas, leur apprendre ce que c'était que la Belgique. La Belgique industrielle, la Belgique économique, la Belgique hôtelière, la Belgique avec toutes ses créations, parce qu'il faut dire que nous sommes quand même un peuple très travailleur et que nous étions fiers de pouvoir le montrer. Alors, résultat, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons imaginé un système pour que les hôtesses puissent accueillir depuis les postes frontières pendant 5 jours, 2 jours de congé et alors reprenaient un autre poste dans un autre endroit de la Belgique. Ce qui veut dire qu'elles ne s'habituaient pas à être heureuses ou très débordées de travail à un endroit qui allait être trop long si elles y étaient restées 185 jours pendant la durée de l'exposition. Il fallait donc les faire pivoter et ça a été un succès parce qu'elles n'ont pas eu l'impression d'être écrasées par le travail. L'école hôtesse, 4 mois, où j'étais tous les jours, bien entendu, tous les matins, rue de Sassard, avec quelquefois le professeur qui, 10 minutes avant d'arriver, téléphonait pour dire « excusez-moi, mais je ne viendrai pas ». J'étais la seule à pouvoir boucher le trou. Donc, quelquefois, j'ai interprété les absences en parlant éventuellement de la future exposition que je ne connaissais pas. Donc, il faut un certain facteur d'invention ou de... Toutes ces choses tellement inexplicables. Je dois vous dire que quelquefois, j'avais tellement peur moi-même que j'avais de la transpiration qui me coulait dans le dos. Mais seulement, vous êtes obligé de faire bonne figure. Et à ce moment-là, je n'ai pas toujours été tendre, parce que le chef ne peut pas être tendre. S'il est tendre, il est faible. Alors, de temps en temps, comme on parlait un peu trop dans la salle, je disais, mademoiselle, voulez-vous venir jusqu'ici et répéter ce que je viens de dire? Il est évident que la pauvre fille était un peu dans le silence. Hein? Mais enfin, ça veut dire que ce n'est pas méchant, mais que comme ça, vous obtenez l'oreille du public. Sinon, on bavarde, parce que ce n'est pas tellement extraordinaire. Voilà. Il y a quelques recettes. Mais seulement, il a fallu tout imaginer. Le règlement des hôtesses, pas uniquement moi. Hein. Quand je parle de moi, je devrais dire nous. Mais alors, à ce moment-là, ça deviendrait majestatif, comme à la cour du roi de France. C'est un peu exagéré aussi. Donc, nous nous sommes trouvés avec des tas de questions qui nous empêchaient de dormir, mais qui nous ont permis d'avancer vers des solutions qui ont été valables et que l'on a copiées partout.
Les responsabilités d'hôtesse étaient variées. Elle fournissait des informations aux visiteurs, répondait à leurs questions, faisait des visites guidées et participait à des cérémonies officielles et des événements. Coquette et disciplinée, elle représentait la femme moderne des années 50. Certaines hôtesses faisaient partie d'un groupe VIP et étaient sollicitées pour accompagner des invités de marque, car l'Expo 58 était très prisée. Président, ambassadeur et star de cinéma étaient tous de passage. Et les hôtesses devaient être bien informées afin d'engager la conversation avec ces VIP. Des milliers de photos d'elles ont été prises, faisant d'elles le véritable visage de l'Expo 58.
Ah oui, mais ça c'était un groupe spécialisé qui s'appelait VIP. Et alors elles parlaient vraiment bien les langues, parce que ça c'était indispensable. Mais il faut vous dire que, par exemple, Madame Jacquet, hier, au lieu d'être à l'école comme elle l'a fait régulièrement, elle était obligée très très souvent d'aller chercher un VIP dans un hôtel, de prendre une voiture, comme moi j'ai pris un taxi tout à l'heure, et d'arriver jusqu'ici, parce que le but secret que tout le monde connaissait, c'était que l'on prenne des photos de la personne que Madame Jacquet accompagnait devant, par exemple, si c'était un Français, devant le trou dans lequel on allait construire le pavillon de France. Et alors, on prenait la photo du groupe Jacquet, Marcel Achard, par exemple, c'est un écrivain, devant le trou, et la photo permettait de dire, on allait l'envoyer en France, bien entendu, pour dire qu'il y allait y avoir une exposition à Bruxelles, parce que tout ça, ça veut dire qu'il fallait faire, derrière notre travail à nous, les autres continuer à faire valoriser tout ça. Parce que la promenade de Madame Jacquet devant un trou avec Monsieur Achard, tout le monde, ça n'a aucune importance. Mais le fait était que les Français se disent « Oh, oh, oh !» Et vous savez qui était le commissaire du pavillon français quand il a été construit? Le frère de Monsieur de Gaulle. Donc, vous voyez, chaque pavillon avait son importance. Parce que, politiquement parlant, le frère de Gaulle, c'était pas n'importe qui. Bien entendu. Donc, ces hôtesses devaient savoir tout ça. Parce que je suis persuadée que celle qui n'avait jamais été voir la mer à Ostende ne savait peut-être même pas que de Gaulle était président de la République française et que le frère était le patron. Donc, vous voyez, il fallait informer tout le temps. Et nous les obligions à signer tous les jours des coupures de presse que nous mettions dans des livres, dans les endroits où elles ne passaient pas toujours ensemble. Donc, à ce moment-là, il fallait qu'elles le lisent, vous comprenez?
Des millions de visiteurs de l'Expo 58 n'ont vu que des pavillons imposants et l'éclatant Atomium. Mais en coulisses, Madame Motte portait une responsabilité gigantesque. Elle devait superviser 280 hôtesses, maintenir la paix et s'assurer que tout se déroulait sans accroc. elle était informée de chaque détail, de qui coordonnait la construction du pavillon français, à quel tableau était exposé. Une pression énorme, car Internet n'existait pas, et prendre un jour de congé était inimaginable. Pourtant, Madame Motte a relevé le défi et est devenue un symbole de persévérance. Car même si le travail était ardu, c'était également une opportunité unique.
Il y en a une qui n'avait pas vu la mer du Nord, mais il y en avait deux ou trois qui avaient été dans des finishing schools très chic, très chers, pas parce que papa avait les moyens, en Italie ou en Suisse, et que elles avaient l'habitude du monde. Il est évident que si vous demandez à la fille qui n'avait pas vu la mer du Nord de promener un personnage important et de lui faire une conversation. Donc, il fallait faire un choix aussi. Mais par contre, quelquefois, on obtenait plus de celle qui avait moins d'atouts dans son jeu que d'autres qui étaient plus gâtées. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'était pas un jeu, mais une subtilité. Et cette subtilité, nous avions le tableau dans mon bureau, ici, dans le Palais 5, sur le mur, du papier millimétrique, 186 jours, 42 postes, tous les noms, tous les teams avaient un numéro, et quelquefois il fallait changer parce qu'il y en avait qui étaient malades, il y en a qui, ayant commencé par faire un grand congrès, le congrès, au lieu de durer 5 jours, durait 7 jours, il fallait alors changer le travail, parce qu'elle ne devait pas quitter le congrès, elle devait continuer. Vous voyez? Donc nous avions un travail énorme de gestion de ce capital humain qui devait correspondre à un contact que je n'ai jamais vu, moi. Par contre, comme je voulais savoir ce qui se passait en réalité, un jour j'ai suivi une jeune hôtesse, ici, à l'expo, qui avait un fauteuil d'invalide et qui allait chercher quelqu'un qui avait téléphoné de la part d'un hôtel pour dire « Je suis chaussée Robaine et je vais arriver dans un taxi et il faut que cette dame ait un fauteuil roulant. » La dame est descendue du taxi. L'hôtesse était une jeune qui pesait peut-être 55 kilos, 60 kilos. La madame le double. Elle n'entrait pas dans le fauteuil roulant. J'étais là, hein. Je paniquais aussi. Et alors, il fallait rentrer à l'exposition, et pour rentrer à l'exposition, pas nous, mais la madame devait payer. Donc, il fallait qu'elle rentre dans les tourniquets. Vous savez ce que c'est qu'un tourniquet? Ça existe encore, hein. Et à peine avait-elle passé le tourniquet et qu'elle voyait l'exposition, enfin, parce qu'elle venait, je ne sais plus de où, elle nous a dit « Maintenant, je veux aller à la toilette. » Où? Comment? Qui? Dans la vie, tout est toujours mélangé. Une valeur certaine, parce que ça ne se vit qu'une fois. Parce que je suis allée à l'exposition de Séville à titre privé, après, pour voir. C'était pas du tout la même chose. Donc j'ai préféré Bruxelles. Mais, malgré tout, c'est très, très lourd, hein, c'est très pesant. 186 jours, je n'ai jamais pris un jour de congé, jamais. Alors là, il faut le faire. Hein. Et alors, j'avais envie de voir des choses. Mais quelquefois, c'était comme si j'avais volé une heure. Par exemple, il y avait au pavillon d'Espagnol un magnifique portrait peint par Dali. Et je voulais le voir, j'ai été le voir, mais toujours vite, parce que quand je revenais au bureau, on me disait « Ah, il y a eu ça, si, ta, 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 ta. » C'était pas toujours mon travail, hein, mais je voulais savoir. Parce que si vous ne savez pas quand vous êtes le chef, vous devenez bête, hein. C'est...
Comme mentionné plus tôt dans l'épisode, Madame Motte était stricte, car elle ne voulait montrer aucune faiblesse. Cela signifie-t-il qu'elle était insensible ? Pas du tout. Elle comprenait que les hôtesses avaient aussi leurs propres soucis personnels, et elle en tenait compte autant que possible. Parfois, elle fermait les yeux quand elles enfreignaient le règlement, car pour Madame Motte, cela fait partie de la nature humaine. Le lien qui s'est créé entre les 280 hôtesses est indescriptible. Il n'y avait pas de jalousie entre elles et à la fin de l'exposition universelle, elles sont restées en contact. D'ailleurs, Madame Motte appelle encore chaque dimanche Margaret Jacquet Overzeer, qui était la plus jeune des hôtesses et qui a partagé son histoire dans un autre épisode.
Parce que l'essentiel aussi, c'est de payer de soi-même pour arriver à un résultat positif. Parce que si vous vous contentez d'aller vous promener, il y avait moitié à se promener à l'expo, vous savez. Moi, je ne me suis pas promenée. J'étais toujours là où il fallait redresser ou inventer. Donc, c'était passionnant. Mais tout ça demande à être fait de cette façon-là. Et il y a des moments où c'était très difficile, où il y avait des problèmes humains à régler aussi. Parce que, vous savez, toutes ces jeunes femmes, elles apportaient avec leur vie personnelle des problèmes aussi. Donc, sur le plan légal, sur le plan... Mais ça veut dire qu'il a fallu une collaboration. Et nous n'avions pas uniquement qu'une discipline à faire digérer. Nous avions aussi cette collaboration à créer. Et ça, c'est très important. Alors, il n'y a pas eu de problème linguistique. Ce que je trouve étonnant, il est évident que, je ne dirais pas que c'était de la jalousie, parce que la jalousie, c'est très féminin, mais quelquefois, on donnait une mission fabuleuse à Mademoiselle Machin, tandis que Mademoiselle X aurait voulu la voir, vous comprenez? Donc, il fallait de temps en temps imaginer presque une compensation. Mais sur 186 jours, les compensations, elles ont plu. Plus la pluie. Et quand il y a eu, par exemple, le Tour de France qui est venu au Motel Expo à Metz, eh bien, on a créé ce poste parce que le Tour de France allait venir là-bas. Donc, c'était bien. Pour encore une fois la publicité de l'expo, parce que le Tour de France, les gens en parlent, hein. Et alors nous avions un livre comme ça dans chaque poste où on téléphonait en disant veux-tu noter que bon, donc elle notait. Ce livre était à côté d'elle et quand les coureurs sont arrivés pour dormir au motel, ils sont venus voir la jolie hôtesse qui était là. Et alors, ils ont commencé à bavarder avec elle, ce qui était tout à fait normal, malgré que le règlement disait, on ne sort pas avec un monsieur avec qui on a parlé. Mais ça, c'était le règlement. Mais dans le bureau, ces coureurs cyclistes ont vu le bouquin. Et moi, le lendemain, je suis arrivée pour voir ce qui se passait à cause du Tour de France dans cet endroit dangereux. Et j'ai regardé le bouquin. Vous savez ce qu'il y avait dans le bouquin ? À la plus jolie hôtesse du monde. Et c'était signé, pas Eddy Merckx, mais Louison Bobet. Parce que vous voyez, ils ont écrit pour dire « Bonjour, mademoiselle ». Mais c'est la vie, ça. Il n'y avait pas moyen de les réprimander. Je trouvais ça charmant, vous voyez. Mais il faut quand même continuer à vivre aussi.
En tant que jeune femme dans les années 50, les choix et les opportunités sur le marché du travail étaient limités. Certaines femmes devenaient infirmières ou enseignantes, mais d'autres possibilités de carrière étaient plutôt rares. Dans un tel contexte, il était inhabituel et souvent même inédit qu'une femme dirige un département important, surtout lors d'un événement de l'ampleur de l'Expo 58. On pourrait penser que les gens ne l'auraient pas acceptée en tant que leader. Pourtant, ce n'était pas le cas. Elle a eu toutes les opportunités pour réussir dans son métier.
Eh bien, avec intérêt et gentillesse, admiration et sympathie, oui. La pyramide que créait M. Muns de Verdijk, puisqu'il était commissaire général, mais il avait des adjoints, ils ont réussi. Naturellement, il y avait... Les budgets n'étaient pas le problème que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'on a une idée, on dit « oui, mais ça coûte combien ?» hein? Alors comme ça, vous êtes immédiatement calmé. Mais là-bas, on disait « il faut ça !» Et on l'avait. Vous comprenez ? Ça permettait de voir plus grand. Donc, tout ceci veut dire que l'époque était très réussie et on avait l'impression que avant l'Expo, Bruxelles était une ville de province, et après l'Expo, c'était devenu une ville, une capitale. Pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une capitale.
L'Expo a laissé une impression durable sur beaucoup de monde, et toute une génération en a été influencée. Comment Madame Mode voit-elle cette période rétrospectivement ?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai 96 ans, ce qui fait pas mal d'années. Et ça me rajeunit de venir vous voir. Vous savez que nous avons un petit monument ici en bas avec une hôtesse 58 parce que quand nous avons été nommés par la ville demoiselle d'honneur, citoyenne d'honneur, et nous avions un petit budget et nous connaissions un artiste qui nous a fait un cadeau, si vous voulez. Mais tout ça nous a appris énormément de choses dans tous les domaines. Maintenant, je sais comment on fait une statue. S'il n'y avait pas eu ce cadeau, je ne l'aurais pas connu. Donc vous voyez, l'expérience vient du fait des choses qui sont ensemble. Mais il faut quand même une très bonne santé. Et il faut être... Je n'avais pas d'enfant. Mon mari m'a beaucoup aidée. Mon mari était polytechnicien. Et je ne vais pas vous dire un secret. Ce grand calcul de faire tourner les filles pendant 186 jours, c'est lui qui l'a fait. Parce que moi, j'en aurais pas été capable. Donc, vous voyez que vous avez toujours besoin les uns des autres. Et nous n'avions pas l'équipement que vous avez maintenant, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Hein? On va voir ce que ça va donner. Hein? Mais l'intelligence artificielle et les droits d'auteur, ça va être joli. Hein? Hein? Mais enfin, vous voyez, il y a un côté tellement vivant dans tout ça. Que c'est unique. Et j'ai eu l'impression que quand je voyais, je n'avais pas l'occasion de réapprendre des choses aussi extraordinaires que maintenant, par exemple, à la télévision, dans les journaux, etc. Je m'ennuie. Parce que moi, ma vie a été un espèce de... À titre personnel aussi, hein, parce que nous avons habité en France après, quand nous avons pris notre retraite, etc. Donc, il y a dans la vie des occasions de changer de vie, changer de peau. Comprenez ? Pas de chapeau, de peau. Mais si vous voulez voir quelques photos, il est temps. Mais je vous ai dit en rigolant tout à l'heure que je l'ai vu naître et que c'est un peu mon bébé. Parce que vous n'en profitez pas assez de l'atomium. Il faudrait le faire vivre davantage.
Merci de nous avoir écoutés. Vous voulez plus d'histoire ? Écoutez alors les autres podcasts et plongez-vous dans le monde de l'Expo 58. Vous voulez en savoir plus sur l'atomium ou l'exposition universelle? Allez sur atomium.be pour toutes les informations ou visitez l'exposition permanente sur l'Expo 58 dans les sphères de notre monument national.